Octave Mirbeau, La mort du chien. Son maître l'avait appelé Turc. Il n'avait pourtant rien d'un Turc, le pauvre. Bien au contraire. Il était maigre, jaune, triste, de mine basse et de museau pointu, avec de courtes oreilles mal coupées, toujours saignantes, et une queue qui se dressait sur son derrière comme un point d'interrogation. L'été, Turc allait aux champs, garder les vaches, aboyer le long des routes après les voitures et les passants, ce qui lui attirait force coups de pied et force coups de pierre. Sa grande joie, c'était, au milieu d'un chaume, tapissé de trèfles naissants, de lever un lièvre qui détala devant lui, et, à travers haies, douves, ruisseaux et fossés, de le poursuivre en bonds énormes et en courses folles, dont il revenait essoufflé, les flancs sifflants, la langue pendante et ruisselante de sueur. L'hiver, alors que les bestiaux restaient à l'étable, engourdis sur leur litière chaude, Turc, lui, restait à la niche. Un misérable tonneau défoncé et sans paille, au fond duquel, toute la journée, il dormait roulé en boule, ou bien longuement se grattait. Il mangeait une maigre et puante pitance, faite de crétons et d'eau sale qu'on lui apportait, le matin, dans une écuelle de grès ébréché, et chaque fois que quelqu'un qu'il ne connaissait pas pénétrait dans la cour de la ferme, il s'élançait d'un bond jusqu'au bout de sa chaîne et montrait les crocs en grondant. Il accompagnait aussi son maître dans les foires, quand celui-ci avait un veau à vendre, un cochon à acheter, ou des stations à faire dans les auberges de la ville. D'ailleurs, résigné, fidèle et malheureux, comme sont les chiens. Une fois vers le tard, s'en revenant d'une de ces foires lointaines avec son maître, arrêté à un cabaret de village, il le perdit. Pendant que le maître buvait des petits verres de trois scies, le chien s'était mis à rôder dans les environs, fouillant avidement les tas d'ordures, sans doute pour y déterrer un os ou quelque régal de ce genre. Et quand il rentra dans le cabaret, tout honteux de son escapade et les reins prêts déjà aux bourrades, il ne trouva plus que deux paysans, à moitié ivres, qui lui étaient tout à fait inconnus et qui le chassèrent à coups de pied. Turc s'en alla. Le village était bâti sur un carrefour. Six routes y aboutissaient. Laquelle prendre ? Le pauvre chien parut d'abord très embarrassé. Il dressa l'oreille, comme pour saisir dans le vent un bruit de pas connu et familier, flaira la terre, comme pour y découvrir l'odeur encore chaude d'une piste. Puis, poussant deux petits soupirs, prestement il partit. Mais bientôt il s'arrêta, inquiet et tout frissonnant. Il marchait maintenant de biais, avec prudence, le nez au ras du sol. Il s'engageait quelques mètres seulement dans les chemins de traverse qui débouchent sur la grande route, grimpait au talus, sentait les ivrognes étendus le long des fossés, tournait, virait, revenait sur ses pas, sondait le moindre bouquet d'arbres, la moindre touffe d'ajonc. La nuit se faisait. À droite, à gauche de la route, les champs se noyaient d'ombres violettes. Comme la lune se levait, montait dans le ciel, rose et triste, Turc s'assit sur son derrière, et le col étiré, la tête droite vers le ciel, longtemps, longtemps, il cria au perdu. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Il y avait partout un grand silence épandu. « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Seuls les chiens des fermes voisines répondirent des profondeurs de la nuit aux sanglots du pauvre animal. Monsieur Bernard, notaire, sortait de chez lui à pointe d'aube et se disposait à faire sa promenade accoutumée. Il était entièrement vêtu de casimir noir, ainsi qu'il convient à un notaire. Mais comme on se trouvait au plus fort de l'été, Monsieur Bernard avait cru pouvoir égayer sa tenue sévère d'une ombrelle d'alpaga blanc. Tout dormait encore dans la petite ville. À peine si quelques débits de boissons ouvraient leurs portes, si quelques terrassiers, leurs pioches sur l'épaule, se rendaient d'un pas gourd à l'ouvrage. « Toujours matinal, donc, monsieur Bernard !» dit l'un d'eux en saluant avec respect. Monsieur Bernard allait répondre, car il n'était pas fier. Quand il vit venir, du bout de la promenade, un chien si jaune, si maigre, si triste, si crotté et qui semblait si fatigué, que monsieur Bernard, instinctivement, se gara contre un platane. Ce chien, c'était Turc, le pauvre, lamentable Turc. « Oh oh !» se dit monsieur Bernard. « Voilà un chien que je ne connais pas. Oh oh !» Dans les petites villes, on connaît tous les chiens, de même qu'on connaît tous les citoyens. Et l'apparition d'un chien inconnu est un événement aussi important, aussi troublant que celle d'un étranger. Le chien passa devant la fontaine qui se dresse au centre de la promenade et ne s'arrêta pas. « Oh !» se dit monsieur Bernard. « Ce chien que je ne connais pas ne s'arrête point à la fontaine. Oh oh ! Ce chien est enragé, évidemment enragé !» Tremblant, il se munit d'une grosse pierre. Le chien avançait, trottinant doucement, la tête basse. « Oh oh ! » s'écria monsieur Bernard, devenu tout pâle. « Je vois l'écume ! Oh oh ! Oh, secours ! L'écume ! Oh, secours !» En se faisant un rempart du platane, il lança la pierre. Mais le chien ne fut pas atteint. Il regarda le notaire de ses yeux doux, rebroussa chemin et s'éloigna. En un instant, la petite ville fut réveillée par cette nouvelle affolante. Un chien enragé! Des visages encore bouffis de sommeil apparurent aux fenêtres. Des groupes d'hommes en bras de chemise, de femmes en camisole et en bonnet de nuit, se formèrent, animés sur le bas des portes. Les plus intrépides s'armaient de fourches, de pieux, de bêches, de serpes et de râteaux. Le menuisier gesticulait avec son rabot, le boucher avec son couperet. Le cordonnier, un petit bossu, au sourire obscène, grand liseur de romans en livraison, proposait des supplices épouvantables et raffinés. « Où est-il ? Où est-il ? » Pendant que la petite ville se mettait en état de défense et que s'exaltaient les courages, M. Bernard avait réveillé le maire et lui contait la terrible histoire. « Il s'est jeté sur moi, monsieur le maire ! La bave aux dents ! Il a failli me mordre, monsieur le maire !» s'écriait monsieur Bernard en se tâtant les cuisses, les mollets, le ventre. « Oh, j'ai vu bien des chiens enragés dans ma vie, oui, bien des chiens enragés. Mais, monsieur le maire, jamais, jamais je n'en vis de plus enragé, de plus terrible, oh !» Le maire, très digne, mais aussi très perplexe, hochait la tête, réfléchissait. « C'est grave. « Très grave, murmurait-il. Mais êtes-vous sûr qu'il soit si enragé que cela ?»« Si enragé que cela !» s'écria M. Bernard indigné. « Si vous l'aviez vu, si vous aviez vu l'écume, et les yeux injectés, et les poils hérissés, ce n'était plus un chien, c'était un tigre, un tigre, un tigre !» Puis, devenant solennel, il regarda le maire bien en face et reprit lentement. « Écoutez, il ne s'agit plus de politique ici, monsieur le maire. Il s'agit du salut des habitants, de la protection, du salut, je le répète, des citoyens. Si vous vous dérobez aux responsabilités qui vous incombent, si vous ne prenez pas, à l'instant, un parti énergique, vous le regretterez bientôt, monsieur le maire. C'est moi qui vous le dis. » « Moi, Bernard, notaire. » M. Bernard était le chef de l'opposition radicale et l'ennemi du maire. Celui-ci n'hésita plus et le garde champêtre fut mandé. Turc, réfugié sur la place où personne n'osait l'approcher, s'était allongé tranquillement. Il grignotait un os de mouton qu'il tenait entre ses deux pattes croisées. Le garde champêtre, armé d'un fusil que lui avait confié le maire, et suivi d'un cortège nombreux, s'avança jusqu'à 10 pas du chien. Du balcon de l'hôtel de ville, le maire, qui assistait au spectacle avec M. Bernard, ne put s'empêcher de dire à celui-ci « Et cependant il mange !» de la même voix que dut avoir Galilée en prononçant sa phrase célèbre. « Oui, il mange, l'horrible animal, le sournois !» répondit M. Bernard, et s'adressant au garde champêtre, il commanda « N'approche pas, imprudent !» L'heure devint solennelle. Le garde champêtre, le képi sur l'oreille, les manches de sa chemise retroussées, le visage animé d'une fièvre héroïque, arma son fusil. « Ne te presse pas !» dit une voix. « Ne le rate pas !» dit une autre voix. « Vise-le à la tête !»« Non, au défaut de l'épaule !»« Attention !» fit le garde champêtre, qui, sans doute gêné par son képi, l'envoya d'un geste brusque rouler derrière lui dans la poussière. « Attention !» Et il ajusta le chien. Le pauvre chien, le lamentable chien qui avait délaissé son os, regardait la foule de son œil doux et craintif, et ne paraissait pas se douter de ce que tout le monde voulait de lui. Maintenant, un grand silence succédait au tumulte. Les femmes se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre la détonation. Les hommes clignaient les yeux. On se serrait l'un contre l'autre. Une angoisse étreignait cette foule dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire et d'horrible. Le garde champêtre ajustait toujours. Pan, pan. Et en même temps éclata un cri de douleur déchirant et prolongé, un hurlement qui emplit la ville. Le chien s'était levé. Clopinant sur 3 pattes, il fuyait, laissant tomber derrière lui de petites gouttes de sang. Et pendant que le chien fuyait, le garde champêtre, stupéfait, regardait son fusil. La foule, hébétée, regardait le garde champêtre. Et le maire, la bouche ouverte, regardait M. Bernard, saisi d'horreur et d'indignation. Turc accourut toute la journée, dansant affreusement sur ses 3 pattes, saignant, s'arrêtant parfois pour lécher sa plaie, repartant, trébuchant. Il a couru par les routes, par les champs, par les villages. Mais partout la nouvelle l'a précédé, la terrifiante nouvelle du chien enragé. Ses yeux sont hagards, son poil hérissé. De sa gueule coule une bave pourpre. Et les villages sont en armes, les fermes se hérissent de faux, partout des coups de pierre, des coups de bâton, des coups de fusil. Son corps n'est plus qu'une plaie, une plaie horrible de chair vive et hachée qui laisse du sang sur la poussière des chemins, qui rougit l'herbe, qui colore les ruisseaux où il se baigne. Et il fuit toujours. Et il bute contre les pierres, contre les mottes de terre, contre les touffes d'herbe, poursuivi sans cesse par les cris de mort. Vers le soir, il entre dans un champ de blé hauts et mûrs, dont la brise balance mollement les beaux épis d'or. Les flancs haletants, les membres raidis, il s'affaisse sur un lit de bleuets et de coquelicots, et là, tandis que les perdrix égayées rappellent, tandis que chante le grillon, au milieu des bruissements de la nature qui s'assoupit, sans pousser une plainte, il meurt en évoquant l'âme des pauvres chiens qui dorment dans la lune éclatante et magique.